Salut à tous, on est à Montier-en-Der, on est sur le stand de la Haute-Marne, qui est un département oublié, en tout cas qu'on ne connaît pas assez, de notre bonne vieille France. Déjà, pour le situer à la base, c'est à peu près entre Paris et Strasbourg, à peu près à mi-chemin. Pour en parler, eh bien, on a Aline 1.
Bonjour.
Et Aline, comme il se doit, 2.
Bonjour Marc.
Aline 1 et 2, donc pour parler de ce département, on pourrait peut-être commencer par les villes les plus connues de la Haute-Marne. Quelles sont-elles, chère Aline 1?
Alors, on a trois villes qui sont connues en Haute-Marne. Donc, du nord au sud, on a Saint-Dizier, qui est la plus grande ville en termes d'habitants. Ensuite, on a Chaumont, préfecture.
Alors, on va aussi dire, tiens, tant qu'on y a les spécialités, Saint-Dizier, c'est la capitale de Mico.
C'est ça, c'est la capitale de Mico. Mico y est basée avec les glaces que tout le monde connaît. Et on a aussi la spécialité de Saint-Dizier et de ses alentours, c'est la fonte d'art. Les fontaines Valas, les bouches d'entrée des métros à Paris, en fait, elles sont fabriquées à Saint-Dizier.
Alors, les autres villes, quelles sont-elles?
Donc on a Chaumont.
C'est rigolo, tu parles de quelles autres villes, quelles sont-elles? Bim, explosion d'un bouchon de champagne, c'est génial.
Alors on a le champagne, effectivement. Il y a Colombelles-les-Deux-Églises donc, et ses alentours qui est connu pour le champagne. On a trois villages qui sont reconnus comme champagne, en fait, où les producteurs vendent.
L'appellation d'origine contrôlée.
Appellation champagne, voilà. Et Colombelles, c'est connu pour le général de Gaulle qui y habitait. Il y a le mémorial Charles de Gaulle à Colombelles. Il y a la boisserie, donc sa maison qu'on peut visiter.
Il y a ta collègue Laura qui nous disait tout à l'heure, quand on préparait l'émission, que Colombelles, il y a un espèce de musée qui raconte toute la vie du général de Gaulle, toute la vie des années 60. Parle-nous un peu de cet endroit à Colombelles, les deux églises.
C'est ça, donc c'est le mémorial Charles de Gaulle. Et en fait, ça retrace vraiment toute la vie du général. Comme Laura disait, on peut y passer de 1h30 à, je pense, la journée, si on est vraiment un passionné et qu'on s'attarde à lire toute son histoire. Et puis ben, un passage obligé à la boisserie, là où il a habité. Et on a aussi, on peut aller se rendre sur sa tombe dans le village. Voilà.
Alors, on a Saint-Dizier, on a Colombelles-les-Églises. Alors, on était aux grandes villes. La Haute-Marne, en gros, c'est trois grandes villes. C'est Saint-Dizier, Chaumont et Langres. Est-ce que tu pourrais nous dire un petit mot sur chaque?
Alors, Chaumont, du coup, c'est la préfecture de la Haute-Marne. Donc, parmi les spécialités, donc, on a l'idéal chaumontais, un gâteau qu'on fabrique là-bas.
Et qui ressemble à quoi?
C'est un gâteau qui est composé d'amandes, principalement, meringue, amandes, et c'est déjà bien. C'est de la crème et c'est très bon.
Ok, donc l'idéal chaumontais. Et Langres, c'est la patrie de ce fromage incroyable à croûte orange.
Oui, alors le Langres, donc, c'est connu pour son fromage et puis aussi pour la ville qui est sur un plateau avec ses remparts. Et donc le fromage de Langres, la particularité, c'est qu'il est, il n'est jamais retourné, en fait, donc ça forme une cuvette. Certains au Marnais, ils mettent du champagne qui laisse imprégner dans le fromage pour rajouter une petite touche.
Ouais, c'est drôle, c'est un peu comme faire Chabot avec sa soupe, de mettre un peu de vin dans sa soupe. Et bien là, ils mettent un peu, non pas de vin dans la soupe, mais de champagne sur le fromage pour parfumer leur fromage au champagne. Ces au Marnais sont décidément pleins de malice. Tu me disais tout à l'heure que le surnom de la Haute-Marne, c'est le département vert et bleu. Pourquoi?
Oui, alors en fait, on a le lac du Der qui est le plus grand lac, un des plus grands lacs artificiels d'Europe. Et on a beaucoup de rivières aussi, on a les quatre lacs dans le secteur de Langres, en fait, où beaucoup de pêcheurs viennent. Et on a aussi le parc national de forêt, donc c'est pour ça que c'est un département vert et bleu, parce qu'on a beaucoup de forêt et beaucoup d'eau avec nos rivières, nos lacs.
Les rivières en question sont évidemment la Marne, c'est écrit, c'est comme le Port-Salut, c'est écrit dessus. Et il y a la Meuse. Donc j'imagine grande patrie des pêcheurs et je me tourne vers Aline 1. Tu as prononcé le mot du lac du Der, c'est forcément cet endroit mythique pour les amateurs d'oiseaux, les ornithos comme on dit, qui viennent y observer ces fameuses grues. Et il y en a plein en ce moment à l'heure où on part, fin novembre 2023. On est entouré, il y a plein de grues qui passent avec leur belle formation en V là. Et donc ce lac du Der, pour commencer, c'est un lac artificiel, n'est-ce pas Aline 1?
Oui, c'est un lac qui a été mis en eau, enfin construit et mis en eau en 1974. Et il a fallu pour ça aussi détruire trois villages. Hein. Donc c'est quand même...
Dont tu te souviens des noms?
Bien sûr. Ailleurs, Champ de Coq, Champaubert et Nuisement. La mise en eau du lac, c'est 1974. Donc en 2024, c'est les 50 ans du lac du Der, de la mise en eau du lac du Der.
Alors la grande question, c'est pourquoi on a rempli cette plaine d'eau? À quoi ça sert ce lac? Au départ, c'est pas pour faire joli, évidemment.
Alors, la fonction initiale, c'est un ouvrage technique, c'est un ouvrage de régulation pour la Seine et la Marne, donc pour éviter les inondations, pour éviter les crues, ça régule les crues.
Et c'est fou que tu dises ça, parce que là, on est fin novembre 2023, le nord de la France est, comment dire, est sous les eaux, souffre comme jamais dans l'histoire enregistrée en tout cas. Enfin, et bref, le fameux lac du Der sert à délester finalement les cours d'eau de ces excès d'eau, quoi.
Exactement, c'est exactement ça.
Alors, chère Aline, je reste avec toi parce que on m'a dit que tu étais la spécialiste des oiseaux. Quels sont ces fameux oiseaux incroyables que ces gens viennent voir, les plus grandes stars au lac du Der?
Alors, en cette période, c'est la grue cendrée, hein, l'oiseau symbole du lac du Der. On l'observe en ce moment puisque c'est la période de migration. Les grues viennent d'Europe du Nord et elles descendent pour passer l'hiver dans le sud de l'Espagne et elles font étape au lac.
Qu'est-ce qu'elles mangent pendant tout ce temps?
Alors, elles mangent dans les champs, les chaumes de maïs hein, principalement.
Ce que tu appelles les chaumes, c'est-à-dire ce qui reste une fois qu'on a coupé le maïs?
C'est ça. Et le soir, elles regagnent le lac pour y passer la nuit. Donc, on observe le retour des grues en fin de journée, vers 17h en ce moment. Et surtout, ce qui est super, c'est de se lever très tôt le matin, à 6h, et d'assister au spectacle du lever des grues et du lever du soleil sur le lac du Der.
Oui, c'est ça que les gens viennent photographier. Quelles sont les autres espèces d'oiseaux, si toutefois tu as fini de nous fasciner sur les grues?
Alors, il y a 300 espèces recensées. Donc, il y a des oiseaux, en fait, toute l'année. Hein. Il y a des hérons, il y a des aigrettes, il y a le pigargue à queue blanche.
Il y a un seul couple. Alors, effectivement, c'est une curiosité, lui. Il y a un seul couple en France, il est chez vous. Il est au lac du Der, c'est un pigargue à queue blanche. Et c'est drôle, parce que c'est redondant. Parce que pigargue, ça veut déjà dire fesse blanche en grec. Je le signale au passage.
Bravo, je ne savais pas. Et donc plein d'autres.
Tu m'as montré un fascinant petit fascicule. On va dire les noms parce que les ornithos, ils ont envie d'en savoir plus. Je vois qu'il y a toutes sortes de canards également. Je vois qu'il y a des arles bièvres. Il y a des fameux grèbes. Je vois qu'il y a des sarcelles. Il y a des canards siffleurs. Il y a des oies cendrées. Il y a des cygnes. Il y a deux types de cygnes. Il y a le cygne tuberculé et le cygne de Bewick. Et puis il y a aussi des sternes, Pierre Garin. Il y a des goélands. Il y a ce pigarde. Et puis moi, j'ai vu en venant des vanneaux huppés. Qui ont leur petite, je sais pas comment on appelait ça, une petite huppette, à l'arrière de la tête. Il y a des courlis, il y a des bécassines, et on n'est pas exhaustif, hein. Là, c'est juste les espèces les plus connues. Et c'est deux types d'aigrettes blanches que sont l'aigrette garzette aux pattes noires et au bec noir, et la grande aigrette qui, elle, a les pattes noires aussi, mais surtout le bec jaune. Voilà.
Et on a les observatoires. Hein.
Ouais, c'est fou. Héron cendré, héron pourpré, hein, qui est pour moi le plus beau héron de cette famille-là. Donc voilà pour les oiseaux. Merci beaucoup pour votre patience, mesdames, et à bientôt. Merci tous les trois. C'est la fin de cet épisode. Merci de l'avoir suivi. Pour continuer, nous avons besoin de votre soutien. Et vous pouvez nous aider simplement, en quelques clics et gratuitement. Il suffit par exemple d'utiliser le moteur de recherche solidaire Lilo. Ainsi, chacune de vos recherches sur Internet générera des gouttes qui seront reversées au projet de votre choix, comme Baleine sous Gravillon par exemple. Vous pouvez par ailleurs vous abonner à nos podcasts comme d'habitude, partager les liens, devenir adhérent de l'association BSG, ou encore faire un don sur Hello Asso ou sur Tipeee. Grand merci par avance. Je remercie tous mes équipiers pour leur aide précieuse. Je vous retrouve bientôt pour de nouveaux épisodes. Et d'ici là, prenez soin de vous et de ce qu'il y a autour de vous. Merci. À bientôt.